Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi, j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi, un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait, le pari, il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe. Maë Burla.
Du 11 au 22 novembre 2024, s'est tenue la 29e conférence des parties, la COP29. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont réunis à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, afin de négocier le soutien financier aux pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique et de limiter le réchauffement planétaire. À près de 3500 km de là, quelques jours avant, les élèves de terminale du lycée Louis Lachenal à Argonnais ont endossé pour quelques heures le rôle des délégations des pays signataires, mais aussi des scientifiques et des lobbies présents à la COP. Qu'ils et elles soient en spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ou en spécialité maths, physique ou SVT, toutes et tous se sont emparés des enjeux de la conférence. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous propose ainsi de plonger dans la version lycéenne et argonaute de la COP29.
Chaque année, depuis 1995, la conférence des parties de la convention, COP, se réunit pour lutter contre le changement climatique.
We must look for ways and ensure the inclusion of the role of...
Pour ces militants de Greenpeace, le message est clair, c'est aux superpollueurs de payer l'addition.
Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international.
L'accord exige des pays signataires qu'ils maintiennent bien en dessous de 2 degrés l'augmentation de la température.
Cette année, la COP28 est celle où l'on évoquera les énergies fossiles.
It is so important today to come together.
Le bouton, c'est le bouton.
Venez, on va se coller ça.
T'as signé et après, faut que tu te mettes à table.
C'est avec qui?
Je m'appelle Mathilde Bouchet, je suis enseignante en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques en classe de terminale. Et dans le cadre du programme, nous avons une thématique intitulée l'environnement, exploitation liée au changement climatique et ses adaptations, avec tout un chapitre sur la différence entre variabilité climatique et changement climatique et la manière dont les politiques, au sein des États puis à l'échelle internationale, tentent de répondre et de s'adapter à ce changement climatique.
On va vous demander le silence. Merci. Donc je cède d'abord la parole à la présidence de commission. Donc messieurs les représentants de l'Azerbaïdjan.
Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les scientifiques du GIEC, mesdames et messieurs les journalistes, dans un monde où le changement climatique...
L'idée d'aujourd'hui était d'organiser, de simuler la COP 29 qui aura lieu au mois de novembre, puisque nous étudions en fait l'histoire et l'évolution de ces COP et ses enjeux. Et pour nous, dans notre spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, il nous paraissait intéressant que les élèves se mettent dans la peau en fait, des différents États, qu'ils comprennent donc, du coup, les enjeux politiques des États et la difficulté à trouver finalement des solutions au sein d'une gouvernance mondiale, quels sont les enjeux géopolitiques de chacun. Et donc cet exercice leur permet vraiment de prendre conscience des enjeux économiques, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux et des différents aussi géopolitiques qui peuvent exister pour rendre finalement leur cours plus concret et on espère qu'il soit plus facile à appréhender et à apprendre pour eux et à comprendre.
Que ce soit au sein de votre commission d'adaptation ou d'atténuation, je vous demande de faire preuve d'ambition, de sérieux, d'assumer vos responsabilités, d'agir pour protéger l'humanité, pour protéger nos enfants. Nous n'avons plus le droit de décevoir. Mesdames et messieurs, bienvenue en Azerbaïdjan.
Auparavant, on le faisait en classe chacune dans notre groupe de spécialité, parce qu'on est deux enseignantes en géopolitique. Et l'an passé, on l'avait fait en regroupant nos classes de géopolitique. Et c'est vrai qu'on avait remarqué qu'il manquait un petit peu le point de vue des scientifiques. Et donc cette année, les collègues de SVT ont accepté de nous rejoindre pour qu'on ait une COP qui soit encore plus proche de ce qui se passe dans la réalité.
Mesdames et messieurs les scientifiques du GIEC, nous vous remercions, monsieur le président, cher Mouhtar Babaïev, pour l'accueil de cette conférence et son organisation. Les discussions que nous aurons cet après-midi...
Elsa Orfeuille, j'enseigne les SVT au lycée Lachenal. Et cette année, j'ai donc des terminales spécialités.
L'intérêt pour nous était d'apporter, on va dire, une part un petit peu scientifique à leurs débats qui étaient posés sur des, on va dire, thématiques qui pouvaient être peut-être historiques, géographiques, politiques, voilà.
Nous, nos élèves sont plutôt spécialisés sur les aspects politiques, les enjeux économiques. Eux viennent apporter des faits scientifiques précis, essayer d'inciter les États à prendre des mesures un peu plus engagées dans le changement climatique. Et du coup, ça correspond un peu plus à ce qui se passe au sein de la COP, tout comme la présence de lobbies aussi est aussi plus proche de la réalité, puisqu'ils ont aussi une influence majeure. En fait, l'an passé, on avait rencontré la glaciologue Heidi Sevestre, qui nous avait accompagnés à la mer de glace, qui nous avait expliqué aussi son rôle au sein des COP, et qu'on avait essayé de reproduire le plus fidèlement possible pour essayer de vraiment comprendre les enjeux.
La France, pour sa part, réduit ses émissions d'année en année. Mais nous avons conscience que l'effort est encore trop insuffisant si nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous nous engageons ainsi à accélérer nos politiques, à fermer l'intégralité de nos centrales à charbon d'ici 2027 et à sortir complètement des hydrocarbures d'ici 2040. Nous souhaitons nous tourner vers une production d'énergie renouvelable et nucléaire.
Un tel accord peut-il survenir lors d'une COP organisée aux Émirats Arabes Unis, 7e plus gros pays producteur de pétrole?
En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec.
Après des négociations longues et difficiles, la COP 27 s'achève et laisse une nouvelle fois un goût d'inachevé et de déception.
La COP 28 est annoncée comme la plus grande COP jamais réunie avec 70 000 participants, parmi lesquels un grand nombre de lobbyistes.
À la COP 29 comme à la COP 28, les énergies fossiles seront reines.
L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir.
To phase out emissions from all sectors, including transportation, agriculture, heavy industry, and of course fossil fuels.
Donc bonjour, moi je m'appelle Jade et je suis en terminale du coup au lycée Lachenal.
Bonjour, je m'appelle Camille et donc je suis aussi en terminale au lycée Lachenal. Et on fait l'aspect AGGSP, c'est la spécialité histoire géopolitique et sciences politiques. Donc nous, on a le rôle de la France, donc on représente la délégation de la France, et on va devoir débattre et défendre les intérêts de la France sur les questions climatiques, donc pour atténuer le changement climatique et pour s'adapter au changement climatique.
En classe, donc on s'est basé sur la leçon qui présente donc le fonctionnement des COP. Ensuite, on a eu un temps de 2 heures en salle informatique durant lequel ils ont choisi un État. Ils ont fait des recherches pour se familiariser avec ce pays, donc sur la situation économique, politique, sociale, une présentation rapide. Ensuite, ils ont dû refaire un bilan des principales COP pour faire le point de l'état d'avancement des enjeux. Et ils devaient ensuite essayer d'étudier leur pays afin de voir comment ce pays était impacté par le changement climatique, ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient accepté dans les COP précédentes, et du coup, ce qu'ils étaient prêts à accepter dans ce qui devrait être les enjeux débattus lors de la COP 29 qui aura lieu en novembre. Et l'idée, chaque année, on l'a déjà fait l'an passé, c'est de le faire avant la COP, pour qu'ensuite ils puissent comparer les résultats qu'ils auront obtenus aujourd'hui avec les résultats de la COP qui aura lieu en novembre.
Je pense que on peut quand même, nos idées elles vont être quand même acceptées. Je pense parce qu'on a une position assez ambivalente quand même. Enfin, on veut quand même aider les pays, mais en même temps arrêter des énergies fossiles. Donc forcément, on va se faire quelques ennemis, mais je pense quand même que on va pouvoir avoir un bon accord sur cette COP. Je pense. Je suis confiante.
C'est vrai que cette année, on a été pris un petit peu de court, je l'avoue, en tout cas en SVT, pas en HGGSP, parce que comme je le disais, ils ont l'habitude du projet. Et donc, en fait, il a fallu que l'on construise avec ma collègue, on va dire, des rôles, en quelque sorte, sur lesquels les élèves pouvaient s'appuyer pour savoir quel type d'arguments ils pouvaient apporter, en fait, aux délégations, au pays.
Je m'appelle Alicia Bertora. Je fais spécialité maths et SVT. Et je vais représenter Valérie Masson-Delmotte pendant la COP.
Moi, je m'appelle Emma Berthier, je représente l'ONG CARE.
Moi, c'est Éline Ferras, pareil, je représente l'ONG CARE.
Moi, c'est Juliette.
Moi, c'est Sarah.
Et bah, pareil, moi, c'est Océane, je suis dans la classe de Juliette et Sarah.
Nous, du coup, on représente des scientifiques. Donc, on est un scientifique russe qui s'appelle Vladimir. Et ce scientifique, il est spécialiste des glaciers, notamment des glaciers continentaux.
En fait, on a choisi des rôles, en quelque sorte, pour eux. Des rôles comme les paléoclimatologues, les hydrologues, les géographes, voilà, des experts dans certains domaines, les glaciologues également.
Notre rôle
en particulier, ça va être de se rapprocher des représentants des pays afin de leur donner des informations sur les conditions climatiques actuelles et quelles actions ils pourraient faire pour limiter le réchauffement climatique et ses effets.
Dans nos groupes spécialité SVT, on avait aussi choisi des rôles de lobbyistes et de journalistes, puisque des élèves vont donc, à l'issue de la COP, rédiger un article qui retracera un petit peu le déroulement de la COP.
Donc, vos objectifs par rapport à cette COP, c'est de terminer sur un texte de loi, mais précisément qui aide justement les pays en difficulté, c'est ça ?
Notre objectif d'abord à nous, c'est... C'est justement du coup de faire un système comme ceci avec les États-Unis, mais c'est aussi de nous trouver des financements.
L'idée de la première partie, c'est de simuler l'ouverture de la COP avec les discours de quelques pays et de scientifiques, et notamment de la présidence. Ensuite, on a divisé le travail en deux commissions pour que les élèves soient plus efficaces. Une commission atténuation qui va travailler plutôt sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre les 1,5 degrés. Et une commission plutôt sur le financement, l'adaptation, comment on finance, comment on s'adapte à ce changement climatique. Ils ont un premier moment informel dans lequel ils doivent rédiger un texte commun et avoir des alliances entre États. Et ensuite, là, vont démarrer dans chaque commission les phases formelles pour essayer d'aboutir à un texte commun. Et ensuite, on se retrouve tous ensemble pour essayer de nouveau revoter les textes et amender en fonction pour que ce soit... plus cohérent entre la position d'un même pays entre les deux commissions. On a choisi cette organisation cette année parce que l'an passé, ils avaient du mal à aborder tous les points, parce que du coup, certains élèves prenaient plus la parole au sein de leur salle en pays. Il y a deux élèves, donc l'un prenait plus la parole que l'autre. C'est pour donner la chance à chaque État de pouvoir participer, argumenter, et puis pour être un peu plus précis dans les textes sur lesquels on va aboutir.
Let's be clear. Soyons clairs, notre planète est toujours dans une situation d'urgence. Nous devons réduire considérablement les émissions maintenant.
The oil and gas industry will have to invest.
L'Azerbaïdjan muscle sa répression contre les militants pro-climat à la veille de la COP29 qui va se tenir le mois prochain.
Idéalement, tous les pays s'entendraient sur une déclaration volontariste de réduction, voire d'élimination progressive des énergies fossiles.
Réinvestir dans le renouvelable. Sans l'énergie du pétrole, il n'y a pas d'éoliennes sur nos mers. Vous savez, la Norvège, grand parc offshore au monde, c'est grâce au pétrole de la Norvège. La Suède ne l'a pas parce qu'ils n'ont pas de pétrole, tout simplement. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, s'ils peuvent proposer ce qu'ils ont proposé dans leur discours, c'est à cause de tout l'argent du pétrole. Donc on a besoin de continuer d'extraire, on a besoin de faire ça pour se diriger vers ça. Et ça va être progressif. Aujourd'hui, selon notre plan qu'on a avec Total Energies, d'ici 2050, on est à 70%, 75, vous avez dit
75%
des énergies renouvelables dans ce qu'on fait. Juste en continuant le processus.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils jouent vraiment le jeu. On a vraiment, ils prennent à cœur le rôle, ils essayent de négocier, d'argumenter. Donc en même temps, ils travaillent le grand oral pour le bac en terminale et s'approprient un peu plus les connaissances du cours.
Que nous, quand on est en cours avec eux, on est vraiment basé sur des connaissances. Voilà. Maintenant, nos élèves ont besoin de se confronter à d'autres élèves. Ils avaient besoin de travailler leur argumentation, leur contre-argumentation, et de savoir comment ils pouvaient aider ou alors au contraire contrecarrer certains pays qui cherchaient à argumenter un fait donné. Eux, ils avaient vraiment, on va dire, les apports scientifiques pour voir en fait quelle pouvait être du coup l'utilisation des chiffres qui pouvaient être faits pour pouvoir aider les délégations.
Non, on veut pas que vous votez des textes de loi pour nous taxer. Parce que là-dessus, vous ferez de l'argent, c'est sûr.
Souvent, ça permet au sein de la classe, d'avoir une meilleure cohésion, ils apprennent à se connaître. Sur leur capacité à argumenter aussi, ça leur permet d'améliorer un peu leur argumentation. Et même dans l'ambiance de classe, il y a une cohésion qui est un peu plus forte, qui est meilleure. Et ils sont souvent assez contents de la confiance qu'on leur a donnée et qui, du coup, nous la rendent en retour au sein des cours. Et puis, l'an passé, on avait été interviewés, filmés aussi par Figaro Télé. Et on a une spécialiste qui avait regardé notre vidéo et qui nous avait fait un retour en nous disant que les élèves avaient bien compris les enjeux, que tout se passait avec des phases informelles, formelles, telles qu'on le présentait, et que c'était un très bon exercice. Et en fait, c'est un peu aussi l'avis de l'expert qui nous a motivés à relancer l'expérience, le retour des élèves qui avait été très positif, et des parents aussi qui avaient vraiment trouvé ça très instructif pour leurs enfants.
La température, elle est élevée, moins tes océans, ils vont absorber le carbone.
il y a plein de choses à prendre en compte.
Comment ? Le carbone participe à l'acidification des océans ?
Non, en fait, c'est que le carbone, il peut être dissous dans les océans, sauf que, en fait, là, actuellement, sa solubilité, elle est proportionnelle à la température. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de carbone qui est dissous, et du coup, il reste que dans l'atmosphère.
Vu qu'il fait plus chaud. Il y a aussi, après, oui, tout ce qui est combustion qui émet beaucoup de carbone, donc c'est...
Comme les centrales à charbon, pardon, mais c'est pas
le carbone. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les phases, justement, de commission, où nos experts essaient de donner des informations, parfois chiffrées, ou voilà, des informations précises aux, comment dire, aux pays délégués, il se trouve que parfois le pays délégué va peut-être dire quelque chose qui va interpeller notre scientifique et il va se poser la question, je peux lui amener quoi moi comme réponse derrière, comme solution, j'ai qu'une idée très vague, là il vient de dire quelque chose, je pars sur un ordinateur chercher une information pour essayer de le convaincre qu'il doit par exemple diminuer sa production de gaz à effet de serre, pour diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc en fait c'était ça l'intérêt de pouvoir leur mettre à disposition l'outil informatique pour aller faire quelques recherches pendant les phases de commission et d'échange entre pays délégués.
Écoutez bien, vous prenez des notes si ce n'est pas votre alliance pour voir ce qui pourrait vous intéresser. Parce que si jamais c'est le texte qui est voté, il va falloir en voter un. Il faut que vous puissiez voir ce que vous allez amender et modifier. Peu importe si ce n'est pas votre texte qui est choisi. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez modifier ce qui ne vous convient pas pour être d'accord avec ce texte. Je rappelle qu'à la COP, le but, c'est de trouver consensus, un consensus commun, un texte qui va être accepté par tous. Il va falloir que vous acceptiez de revenir sur certains termes, d'en préciser d'autres. Vous, les journalistes, vous pouvez prendre des notes, les scientifiques et les lobbies, vous pouvez faire passer des papiers pour donner des arguments à certains États pour aller plutôt dans votre sens. C'est là votre rôle à jouer. Vous êtes derrière, vous pouvez vous déplacer pour essayer de les influencer dans leurs arguments. Ça va être un temps assez court.
Donc je pense que ça va être vraiment compliqué de convaincre Émirats Arabes Unis. Mais après, tout ce qui est pays européens et tout, je pense que ça va être quand même plus facile parce que bah, du coup, on est en Europe et on voit par rapport juste ici le glacier du Mont Blanc, bah, on voit ce qui se passe. Vous pensez être plus simple de les convaincre, sachant qu'ils ont énormément de glaciers, et même par rapport aux pistes de ski et tout, ils voient vraiment ce qui se passe. Je pense être plus simple, mais après, ça dépend vraiment de ce qu'ils disent et de ce qu'ils veulent, eux, proposer.
Je pense qu'il faut apprivoiser chaque pays en parlant concrètement de ce qui se passe dans son pays, donc nous, au niveau des glaciers qui sont dans leur pays, et peut-être aussi leur montrer que derrière le réchauffement climatique, il y a aussi des enjeux, parfois même économiques. Je reviens sur les pistes de ski. Si le réchauffement climatique il est trop important, il y aura moins de neige et naturellement, l'argent qui est gagné grâce au tourisme lié au ski sera moins important que lorsqu'on a une grosse fonte de neige qui du coup fait qu'on a des bonnes pistes de ski.
Bah, je pense qu'on pourra se rapprocher peut-être plus des pays pauvres en leur proposant notre aide et après essayer d'aller voir les pays justement les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc du réchauffement climatique, pour essayer peut-être de trouver un accord.
Alors, moi, je pense que ça va être un peu compliqué au niveau des grandes puissances mondiales. Je pense qu'elles vont avoir du mal à accepter un peu une réduction, par exemple, de la production de CO2, parce que ça vient après changer tout leur fonctionnement de leur pays. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu des difficultés sur ça, mais j'espère que on va trouver un arrangement quand même qui va être bénéfique pour la planète Terre.
Alors, la difficulté, c'est que les aider sans leur donner notre avis sur l'argument, savoir s'ils sont dans le vrai ou le faux. Alors, on intervient quand vraiment ça nous paraît irréel, mais l'idée, justement, c'est aussi de pouvoir évaluer s'ils ont mesuré et s'ils ont compris les enjeux de cette COP et les enjeux de leurs États. Donc nous, on a chacune, dans chacune de nos disciplines, une grille d'évaluation qui nous permet surtout, dans ce temps d'eux, d'évaluer leur capacité à argumenter, à faire des alliances cohérentes. Donc elles mesurent leurs arguments correspondent à la politique de leur État. Dans un premier temps, ils ont été notés sur un écrit dans lequel ils présentaient leurs états, donc là où ils ont fait leurs recherches documentaires. Et on les évaluera aussi, là, dans un troisième temps, sur la prise de parole en plénière, sur leur manière d'argumenter pour essayer de convaincre devant une assemblée. Donc il y a trois temps de notes, en tout cas en AGGSP, et on essaye d'intervenir pour essayer, à des moments, de les inciter à aller discuter, peut-être avec un autre État, pour les élèves les plus timides. Mais l'idée, plus on est en retrait, mieux c'est normalement pour eux et pour leur expérience.
Alors, on s'est réunis pour essayer de déterminer les critères sur lesquels on pouvait les évaluer, en essayant, je l'avoue, pour une première année, d'être à la fois modeste et de se dire voilà, combien de critères on peut réellement évaluer, puisqu'on a chacune à peu près 22 et 24 élèves à évaluer. Donc si on veut pouvoir entendre, on va dire, les arguments, regarder leur posture, regarder comment ils se comportent, je veux dire, il fallait pas qu'il y ait trop de critères à évaluer. Voilà, donc on a évalué des critères comme le critère argumentation, contre-argumentation, dynamisme, et après pour la phase donc informelle, et pour la phase formelle où nos experts interviennent moins que les pays négociateurs ou délégués, on évaluera une partie écoute attentive et une partie posture active. Voilà, par rapport à des conseils qu'on leur avait donnés.
Parce que c'est normal que tu n'aies pas d'infos là tout de suite. Toi, tu avais un discours qui était un peu préparé. Vous avez échangé dessus. Par rapport à ce qu'ils t'ont dit, par rapport à leurs difficultés financières, et cette voix, dans ce que tu leur as proposé à la
fois. Je suis en pleine transition inattendue. Il faut juste nous laisser du temps. Oui, mais justement, on est en train de stagner.
On nous laisse pas assez de temps. C'est compliqué de repartir tous les métiers.
Eh ben, on aimerait investir vraiment dans les énergies vertes, mais il nous faudrait nous faire vraiment nous faire financer par les pays développés, notamment avec, avec peut-être une augmentation du budget qui n'a pas été alloué à la dernière COP. On a vraiment une envie de baisser.
Je laisse la parole à la délégation française. Nous accueillons maintenant la délégation de l'Arabie Saoudite et nous écoutons la délégation chinoise. Je laisse désormais la parole à la scientifique Valérie Masson-Delmas.
Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la situation actuelle, malheureusement, ne peut plus durer. Si nous prenons la parole aujourd'hui, c'est pour donner la voix aux pays que l'on n'entend pas et que l'on n'écoute pas. Toutes ces petites îles dont peu se soucient, portent un grave danger.
Alors, donc moi, je suis la Suède. Je représente ici pas mal de pays du Sud qui souffrent actuellement des conséquences du changement climatique. Donc tout d'abord, nous on s'est mis d'accord sur qui devait financer. Donc,
Attendez, on a même une
question.
La Chine a
rejoint. Et bah, tout d'abord, nous par exemple, les États-Unis, on va investir une part de notre PIB, bon, 10% de notre PIB, ce qui va représenter 2000.
Moi je trouve que le projet il change des cours basiques qu'on peut avoir par rapport au réchauffement climatique, et je trouve que c'est plus ludique, on va dire. Et ça nous montre aussi un autre aspect de comment travailler tous ensemble.
Ah, j'ai pas essentiellement peur. J'ai envie du coup d'expliquer tout ce que j'ai appris. J'ai envie de transmettre toutes mes données, pareil. Ouais. J'ai plutôt hâte même de voir comment ça va fonctionner, de voir du coup qu'est-ce qui va être mis en place.
Je suis un peu stressée par rapport à ce qui va se passer, mais j'espère que ça va bien se passer.
Ouais. En fait, je trouve que c'est cool de faire ça, parce que du coup, ça change vraiment... cours, et c'est quelque chose qu'on fait qu'une fois ça dans sa vie, donc je trouve que c'est cool et c'est une opportunité qu'il faut saisir, et ça nous entraîne aussi un peu pour le grand oral.
Moi, je suis très satisfaite d'avoir finalement accepté la proposition de mes collègues d'AGGSP, contente de voir certains élèves complètement engagés dans leur rôle et vraiment presque habités en quelque sorte par leur rôle. Certains un peu plus timides, c'est normal. De voir également la différence que l'on peut avoir entre des élèves d'AGGSP et de spécialité SVT. Nos élèves d'AGGSP sont très à l'aise face au discours. Nos élèves de spécialité SVT, ça dépend. Certains oui, d'autres moins. Mais je pense que chacun ont des compétences et peuvent apporter aux autres. C'est du coup l'intérêt en fait de ce mix entre nos élèves de spécialités différentes.
Moi, c'est vrai que ça peut être un peu stressant ça peut être vraiment, parce que prendre la parole devant, déjà des fois rien que sa classe, c'est un peu compliqué. Là, devant plusieurs classes, c'est pas forcément avec des gens qu'on connaît. Et ça amène aussi un peu comme un esprit d'équipe où on essaye de s'entraider, essayer de comprendre. Donc, je trouve ça vraiment bien.
Alors, on avait, nous, l'expérience, en fait, il y a le NUSAB, la simulation des Nations Unies qui a lieu à Berthollet, qui est une grosse organisation qui se fait sur plusieurs lycées du bassin. Et c'est vrai que c'est impressionnant au départ. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, qu'il y a plein d'aides en ligne sur le site de l'ONU. Enfin, il y a plein de ressources numériques dans les académies pour essayer de mettre en place ces simulations, que ça peut paraître effrayant au départ. Mais si on est une équipe de 2 ou 3 enseignants, c'est largement faisable et que le retour sur investissement est apprécié et appréciable.
En vrai, j'ai un peu hâte de voir comment ça se passe, et puis si tout se passe comme prévu et au final, et qu'il n'y a pas de problème, parce que pour le coup, je pense que si tout se passe comme prévu, ça peut vraiment être une après-midi sympa ou
une belle expérience.
Merci à Mathilde Boucher, Elsa Orfeuille et Anne Michaud, ainsi qu'à leurs collègues et au lycée Louis Lachenal de nous avoir accueillis pour cette journée stimulante. Merci aux élèves de terminale pour nous avoir permis de les enregistrer pendant cet exercice et d'avoir répondu à nos questions. Et enfin, merci à Laurent Gaillard du réseau Canopée pour le mixage de l'émission.